France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le grand remplacement ou les nouveaux mots de la haine. Ce concept du grand remplacement, c'est d'abord un fantasme, réfuté par les chiffres, mais qui résiste à toute argumentation rationnelle. Ainsi, la population française, supposément blanche et catholique, serait remplacée par une autre, arabe, noire et musulmane. Autrement dit, la France serait colonisée par des étrangers, faisant disparaître sa population et sa culture. En un mot commençant, le grand remplacement saisit toutes les angoisses identitaires françaises. Alors comment expliquer que cette théorie, apparue en 2010 dans les lignes d'un écrivain français, du nom de Renaud Camus, prenne aujourd'hui une place si importante? Comment l'extrême droite a-t-elle, peut-être, remporté la bataille des mots? Et comment les vieilles angoisses des réactionnaires des pays occidentaux sont-elles réapparues sous un nouveau jour pour finir comme étendard des suprémacistes blancs du monde entier? Car c'est dans le cerveau de tueurs de masse que cette idée a terminé son chemin. Et c'est en France, dans des cercles intellectuels, puis dans l'environnement du Rassemblement National et d'Éric Zemmour, qu'il faut retracer l'itinéraire de cette pensée qui tue. Oui, les faits exposés dans ce récit le prouvent. Notre invitée aujourd'hui, Cécile Lecomte, professeure de sciences politiques à Sciences Po Lille, chercheuse au CNRS. Ses travaux portent sur les milieux d'extrême droite européens et sur la circulation de leurs idées. Elle nous attend à Lille, dans les studios de France Bleu Nord. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Romain Weber, avec la collaboration aujourd'hui de Colombe Teboul. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Le 16 avril 2011, sur France Culture, Alain Finkielkraut reçoit deux candidats à l'élection présidentielle de 2012.
Réplique, insécurité sociale, avec Renaud Camus et Manuel Valls.
Dans cette émission de débat, sont réunis donc le socialiste Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, et un homme distingué, 65 ans, élégamment habillé, barbe blanche, soigneusement peignée, Renaud Camus. C'est un écrivain connu davantage pour ses polémiques que pour les presque 100 livres dont il est pourtant l'auteur. Et s'il est présenté comme un candidat à la présidentielle, c'est qu'il a fondé un parti. Mais il ne compte pas obtenir les 500 parrainages, non. Ce que désire Renaud Camus, c'est diffuser des concepts. Son ami Alain Finkielkraut lui offre un micro. Camus en profite pour exposer l'idée charnière de son programme, le grand remplacement.
Vous m'avez annoncé un peu comme une menace, hors antenne, hors micro, que vous alliez m'interroger sur ce que j'appelle le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est le fait qu'il y ait un peuple et que tout d'un coup, il y ait un autre peuple, ou plusieurs autres peuples. Je crois que c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Il y a un changement de peuple et que ce changement de peuple est manifestement lié à de nombreuses agressions. Je crois que ce que nous appelons la no-sense, qui va justement des dites incivilités jusqu'aux actes de terrorisme, correspond bien à ce changement de peuple, à un changement proprement anthropomorphique. C'est ce que nous appelons le grand remplacement.
L'expression « le grand remplacement », Camus l'a évoqué pour la première fois dans un livre paru quelques mois plus tôt. Un livre selon lequel la France est envahie par les musulmans qui font disparaître son peuple et sa culture. La France et l'Europe hostiles sont beaucoup plus gravement colonisées par l'Afrique qu'elles ne l'ont elles-mêmes colonisée. C'est un cauchemar. Le pays est assailli et il n'y a que lui, Renaud Camus, pour s'en rendre compte. C'est que l'œil, dit-il, est un muscle très bête qui ne voit que ce que le vocabulaire permet de désigner. Alors, il invente des concepts pour que les Français voient enfin, et avec lui, le péril en marche. Il se trouve qu'Alain Finkielkraut partage avec son ami le sentiment, je cite, de devenir étranger sur son propre sol. Mais il ne va pas jusqu'à partager ses outrances. N'est-ce pas conceptualiser la méfiance, la haine, et donc jeter de l'huile sur le feu que de prétendre cela, lui demande-t-il. Manuel Valls, lui, l'autre invité, va plus loin.
Comment pouvez-vous comparer cette colonisation voulue
qui a été le fruit de tous les grands pays européens, avec le processus migratoire. Mais que faites-vous dans cette galère? Parce que, au fond, comparer cela, c'est la guerre civile. C'est-à-dire qu'il faut chasser ceux qui sont là déjà depuis plusieurs générations. Et parler de processus de colonisation et de son grand remplacement, c'est la guerre civile. Et je vous mets en garde. Attention. Attention.
Si, répondez.
Je ne compare pas. Je dis que la situation dans laquelle nous sommes est beaucoup plus grave. Nous voulons défendre notre civilisation, notre langue, notre culture, et nous luttons pour cela.
L'émission terminée, Renaud Camus retourne là où il vit depuis 20 ans, dans un château du XIVe siècle, dans le Gers, château avec chemin de ronde et mâchicoulis. Quelques bons mots, une éloquence surannée, des références bien senties. Après avoir propagé de la façon la plus raffinée et sur la chaîne des intellectuels les nouveaux mots du racisme, Camus retourne dans sa citadelle. Mais si cet homme a inventé un concept, il n'a pas inventé une peur. Car c'est à la fin du 19e siècle qu'elle s'enracine en France. On le voit rien qu'en parcourant les titres de certains livres. La France juive de l'antisémite Édouard Drumont. L'invasion noire d'un certain Émile Drian, capitaine et député. Puis l'invasion jaune, paru quelques années avant la Première Guerre. Ces livres sont d'immenses succès de librairie. L'invasion est une angoisse qui fait vendre. Et le thème se transforme au rythme de la colonisation. Par les expositions coloniales, notamment lorsque les Français voient pour la première fois en 1931 les populations colonisées montrées comme des bêtes de foire, comme des zinzos. Lors de la Première Guerre mondiale également, quand les Africains arrivent en nombre sur le sol français pour se battre. Puis au travers des vagues migratoires européennes de l'entre-deux-guerres, et bien sûr, avec les guerres de décolonisation. Chacune de ces époques ranime la peur de l'invasion. Si on ouvre le livre de Camus, Le Grand Remplacement, on lit un nom en première page, celui d'un certain Jean Raspail. Camus le qualifie de prophète. C'est l'auteur d'un roman publié en 1973, intitulé Le Camp des Saints. Il présente ce livre à la télé en 77 dans une émission de Max Gallo.
C'est une histoire, disons, qui est arrivée demain à nous autres Français et peut-être à tous les Occidentaux que nous sommes. Cette histoire commence le soir du samedi saint. Une flotte vient de s'échouer sur les côtes du midi de la France. 1 million d'immigrants. Ce sont des misérables, des affamés, des gens qui sont venus pacifiquement depuis l'autre côté de la terre, qui sont venus chercher un paradis chez nous et qui attendent le matin pour débarquer.
La réponse à cette arrivée d'un million d'étrangers dans le roman de Raspail, c'est le massacre. Extrait du livre. Des bulldozers s'approchèrent, conduits par des hommes en scaphandre. Toute cette machinerie poussant des cadavres en tas mous et fluides comme de la boue, les soulevant et les versant sur le bûcher, tandis que retombaient comme un trop-plein autour des bennes en mouvement des bras, des jambes, des têtes, quelquefois même des cadavres entiers. Dans cette émission, face à Jean Raspail, Max Gallo est mal à l'aise. Bon, il a aimé son livre. Mais il a le sentiment que l'écrivain suggère de défendre l'Occident contre ceux qui y débarquent et de le faire de façon violente. Si ce livre avait des conséquences, dit Max Gallo, Jean Raspail ne pourrait pas s'abriter derrière son statut de romancier pour échapper à ses responsabilités. C'est que Raspail est un écrivain engagé. Il a voyagé à la recherche des minorités ethniques, les Amérindiens, les Aïnous au Japon, les Autochtones de Patagonie, des peuples exterminés. Et désormais, pense Raspail, c'est au tour de l'homme blanc d'y passer. De surcroît, il est proche d'un courant qui craint maintenant que la France n'ait plus de colonie et qu'elle soit envahie à son tour. Cette mouvance, on l'appelle la Nouvelle Droite. Son principal organe est un club appelé le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, le GRES. Le GRES. C'est d'abord une poignée d'hommes qui se réunissent pour la première fois les 4 et 5 mai de l'année 1968. Mai 68. Le fond de l'air est rouge, remarque comme tout le monde ces individus de droite. Alors comment faire, se demande-t-il, pour que nos idées aient un jour le même succès? Au GRES, on trouve d'anciens membres de la Waffen-SS ou de l'OAS, dont un certain Dominique Venner. Lui d'abord un partisan de ce qu'on appelle le réalisme biologique. Cette thèse, c'est la réminiscence du racisme nazi avec les techniques modernes. Montrer qu'il existe des races et que la science peut les hiérarchiser. Seulement voilà, certains au sein des Grèces comprennent que ce discours n'est plus tolérable, qu'il faut trouver autre chose. Mais il faut habiller ces idées avec la rhétorique de l'idéologie du moment, la gauche. Le Grèce donne ainsi une conférence de presse en 1979.
Le Grèce est né en 1968, un petit peu par réaction au mouvement de mai. Et pourtant, vous parlez également de pouvoir culturel, un petit peu comme les gauchistes de l'époque.
Ce qui nous paraît important, c'est en effet le pouvoir culturel et non pas le pouvoir politique et joute politicienne qui nous paraît à l'heure actuelle dépassé. Et ce qui nous paraît intéressant dans le monde, c'est sa diversité, c'est sa richesse. Et il nous semble que justement, à travers une prise en compte de toutes les différences, on arrive à un bien meilleur équilibre d'une société.
Champion de l'ambiguïté et de l'inversion, ce groupe d'extrême droite parvient à se présenter comme défenseur de la diversité. Mais la diversité, dit-il, ne peut exister que si les peuples vivent séparés. En d'autres termes, son ennemi mortel, c'est le métissage. Alors en quelque sorte, vive l'apartheid. Le Grèce conçoit ainsi le nouveau logiciel de l'extrême droite. On ne combat plus l'immigration au nom de la pureté de la race, ça ne passe plus. On le fait au nom de la pureté de la culture. Et le groupe trouve dans certains médias, notamment le Figaro, le moyen de diffuser ses idées et ses mots. Quelques exemples du nouveau vocabulaire. Laxisme, multiculturalisme, préférence nationale. Des termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Les années 70, c'est également l'époque où en Vendée, Philippe de Villiers construit un parc de loisirs appelé le Puy du Fou. C'est aussi l'époque où Jean-Marie Le Pen fonde Front National avec encore un ancien Waffen-SS. Mais où se trouve Renaud Camus, alors que les nationalistes posent de nouvelles bases? Eh bien, à l'opposé, figurez-vous. Il vote Mitterrand en 81, possède sa carte OPS, et il est proche de Roland Barthes. Mais il défend lui aussi une identité. Il est un des écrivains de la cause homosexuelle. Invité au dossier de l'écran, en septembre 84, écoutons à quoi elle compare l'homophobie.
On peut parler de racisme pour trois raisons, à mon avis. Parce que d'abord, il y a eu les déportations horribles, les homosexuels ont été les victimes du racisme nazi oui. De façon très violente. Il y a le fait que les homosexuels sont victimes de violences physiques très nombreuses, beaucoup plus, au fond, que les juifs en France. Mais en plus, il y a une troisième raison, et là, nous venons à la famille. Et peut-être c'est la raison pour laquelle le racisme à l'égard des homosexuels est plus dur que le racisme classique, à proprement parler racial, c'est que les jeunes juifs ou les jeunes noirs ou les jeunes arabes, peu importe, quand ils sont l'objet d'un racisme, ont tout de même, pour se protéger, le premier groupe humain auquel on appartient, c'est-à-dire la famille. Tandis que pour un jeune homosexuel, c'est beaucoup plus dur que ça, puisque le racisme, très souvent, vient de ce qui est le plus proche.
La hiérarchisation des violences, un élément qu'il utilisera régulièrement. C'est un auteur qui, par ailleurs, se présente comme un grand défenseur de la langue française et qui écrit sur ses voyages en France, où il part à la découverte des paysages qui témoignent de son histoire. Au début des années 90, il tombe sous le charme d'un château dans le Gers. Et cet écrivain, qui mène jusque-là une vie mondaine, se coupe de la vie moderne. Ceux qui le connaissent notent que ce déménagement va avec un changement de mentalité. Les mots de la nouvelle droite infusent depuis 20 ans et sont peut-être parvenus jusqu'à lui. Et peut-être, une expression en particulier, l'idée, je cite, « de grande transformation ». Mais le déclic, le vrai, date de la fin des années 90. Camus est dans l'Hérault, où il visite de vieux villages. Et il voit des Arabes et des femmes voilées aux fenêtres des maisons et dans les vieilles rues médiévales. Il les entend parler des langues étrangères. Comme si, écrit-il, pendant le temps de notre vie, la France était en train de changer de peuple. Mais la première fois qu'il s'attaque à ce qu'il considère comme des étrangers, il ne vise pas les Africains ou les Maghrébins, non. Il s'en prend à une émission de la chaîne qu'il invite régulièrement depuis 25 ans, France Culture. En 2002, il est reçu chez Thierry Ardisson qui évoque un extrait du livre de Camus.
L'affaire commence donc en l'an 2000 avec la parution chez Fayard d'un de vos bouquins qui s'appelle La campagne de France, qui est le journal 1994. Et puis un jour, il y a un critique, peut-être un peu plus courageux que les autres, aux Inrecuptibles, qui lit le bouquin en entier et qui publie un papier dans les Inrecuptibles intitulé La peste noire, où il révèle un passage de votre livre consacré à l'émission de France Culture qui s'appelle Le Panorama. Il m'agace et m'attriste de voir et d'entendre cette culture et cette civilisation avoir pour principaux porte-parole une majorité de juifs français de première ou de la seconde génération.
Ces journalistes juifs de l'émission Panorama, pour Camus, ils ne sont pas légitimes pour parler de la France. Évidemment, cette considération choque le monde médiatique. Et pour Camus, il y a, selon ses mots, d'un côté la pensée dominante et de l'autre la vérité qu'il serait le seul à oser écrire. Mais sur le plateau d'Ardisson, il ne se contente pas de parler de cette affaire. Il évoque aussi le parti qu'il vient de fonder. Son combat, la fin de l'immigration. Camus tient le même discours que la nouvelle droite. Il se vit comme un persécuté. Mais en réalité, les idées qu'il embrasse ont déjà porté Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Comme quoi, ce n'est plus un discours minoritaire. C'est quelques années plus tard qu'il donne un nom à cette peur qui irrigue la société, le grand remplacement. Le livre du même nom sort en novembre 2011 et il désigne deux camps ennemis. Les remplaçants, à savoir les musulmans, et les remplacistes, les élites qui organiseraient la disparition des Blancs. Et puis un jour, avant la publication, un événement à l'étranger fait résonner ses idées d'une façon dramatique.
France Inter.
La Norvège est sous le choc ce matin après la double attaque qui a touché sa capitale Oslo hier après-midi. Un attentat a d'abord frappé le cœur d'Oslo, une bombe a dévasté le quartier où siège le gouvernement, faisant 7 morts. Quelques heures plus tard, c'est une fusillade qui a coûté la vie à au moins 80 personnes sur une île au nord de la capitale. Il s'y tenait un rassemblement de la jeunesse du Parti travailliste. Cécilia Arbona.
Au fil des heures, le bilan de la fusillade s'alourdit et les images que diffuse la chaîne de télévision TV2 sont celles d'un véritable carnage. On y voit des cadavres, les bras en croix sur des falaises ou recroquevillés sur des rochers. Le suspect, dont les photos sont diffusées, est présenté comme un Norvégien de souche, un homme de 32 ans, qui serait lié à l'extrême droite.
Le nom du tueur, Anders Breivik. Sa cible, la jeunesse du Parti travailliste norvégien, Parti social-démocrate. Selon lui, ces gens-là organisent l'invasion islamiste, ce que dans le vocabulaire de Camus on traduit par « remplaciste » donc. Avant d'assassiner ces dizaines de jeunes, Breivik publie un manifeste, le titre « 2083 », comme l'année, selon lui, où les musulmans seront majoritaires en Europe. Ce n'est que le premier massacre. Les prochains tueurs verront en Breivik un pionnier et en Renaud Camus un inspirateur.
Oh,
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du grand remplacement.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Comment pourrions-nous nous satisfaire de voir nos adversaires poursuivre leur œuvre de ruine morale et économique du pays, de le livrer à la submersion par un remplacement organisé de notre population?
Non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française.
Ces deux extraits datent de 2011. Marine Le Pen prend la tête du Front National en début d'année. Et l'échéance, bien sûr, c'est avril 2012, l'élection présidentielle. Un remplacement organisé de notre population, dit-elle. Renaud Camus entend la patronne de l'extrême droite reprendre ses mots. Aurait-il déjà trouvé la candidate qui portera ses idées ? C'est que cette formulation est saisissante. Grand remplacement, force remplaciste. Des mots dignes d'un film catastrophe. Des mots qui font aussi planer le spectre d'un complot et qui intéressent au-delà du FN.
Elle est à nous ! On s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre identitaire ! Elle est à nous ! On s'est battu pour la reprendre, on se battra pour la défendre identitaire !
Ceux-là, on les appelle les identitaires. Comme Camus, ils veulent peser sur le débat et imposer leurs mots. Identitaire en est un, racisme anti-blanc aussi. Leur branche jeune s'appelle Génération Identitaire, un groupuscule uniquement composé de militants de moins de 30 ans. Ils maîtrisent la communication moderne et ils mettent en scène des opérations spectaculaires. Ils envahissent la mosquée de Poitiers, les locaux de SOS Méditerranée, ils perturbent un rassemblement à Paris en l'honneur d'Adama Traoré, et ce sont eux, avec d'autres, qui organisent une opération sur Twitter en 2013. Le 23 mai, entre 17h et 19h, des dizaines de militants tweetent un nouveau hashtag slash grand remplacement. Et ils imposent la formule dans l'espace public. Elle devient même la rengaine des influenceurs d'extrême droite. Professionnels des réseaux sociaux, ces gens vendent des produits et de la publicité. Et tout comme l'angoisse de l'invasion faisait vendre des milliers de livres sous la Troisième République, ce nouveau slogan leur apporte des abonnés et des revenus. Pendant ce temps, Camus observe. Il voit sa formule s'installer dans l'ultra-droite. Il est invité à participer aux assises de la remigration organisée par les identitaires. La remigration, c'est la solution au grand remplacement. L'expulsion des immigrés par la force, pour ne pas dire leur déportation. Mais Camus est aussi invité par le maire de Béziers, Romain Bénard, qui réunit le camp réactionnaire en 2016.
Sur le papier, c'est une table ronde. Sur la scène, les stars sont Renaud Camus, convaincu que le grand remplacement des populations par l'immigration est imminent.
Je suis absolument hanté par l'idée que nous avons très peu de temps.
Ou l'ancien élu Front National, Jean-Yves Le Gallou.
Le grand remplacement existe, au moins dans deux domaines, les prisons et les maternités.
La question numéro un, c'est l'islam. L'islam est-il, oui ou non, compatible avec la République française ? Et moi, je pense que non.
Ce n'est pas un hasard si la droite la plus réactionnaire tente de s'unifier en cette année 2016. Les bouleversements de l'année précédente lui procurent les éléments qui manquaient à son idée. Plus besoin d'imaginer le grand remplacement, en effet. Les files de réfugiés aux frontières européennes, et surtout, les attentats islamistes de janvier et de novembre remplissent ce fantasme d'images choquantes et d'atrocités. Dans les médias, les relais sont du côté du Figaro et surtout de Valeurs Actuelles. Mais les espoirs de Camus de voir le FN reprendre son concept sont déçus. La faute à la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen. Elle avait utilisé l'idée du grand remplacement en 2011, mais elle n'en veut plus. En revanche, dans la famille Le Pen, Jean-Marie et Marion Maréchal n'hésitent pas, eux, à reprendre la formule. Et alors que l'idée imprègne l'extrême droite, les médias y opposent les statistiques. Camus est de nouveau invité chez Alain Finkielkraut, sur France Culture, cette fois en juin 2017. Il fait face au démographe Hervé Lebras.
C'est pas en vous promenant dans la rue que vous pouvez avoir l'idée de ce qui se passe dans 550 000 km² et pour 65 millions d'habitants. Vous avez aucun moyen de le savoir. Tous les biais sont là. C'est l'histoire de l'homme qui arrive en Angleterre, qui voit une Anglaise rousse et qui dit à sa femme au téléphone « Toutes les Anglaises sont rousses ». Donc les statistiques sont très utiles quand on veut avoir l'idée de la situation d'un grand pays. Vous ne pouvez pas vous promener dans les 550 000 km² et contacter les 65 millions d'habitants.
Quand Jean Moulin a décidé de résister, dit Camus, on ne lui a pas demandé combien d'Allemands il y avait. Comparer les immigrés aux nazis et s'identifier à Jean Moulin, Camus ose tout. Les chiffres, oh, il s'en moque. Il y oppose son expérience. Celui qui, en se baladant dans les banlieues françaises, contesterait le changement de peuple serait un aveugle ou un menteur. Et tant pis si la concentration d'immigrés dans ces endroits trouve ses raisons dans l'impossibilité pour eux de vivre ailleurs. Cet argument ne l'atteint pas. Ces quartiers ne sont plus blancs et c'est l'unique chose qui compte. Mais si Camus évite les chiffres, c'est qu'il montre que son angoisse ne repose sur rien. En 2021, en effet, les immigrés représentaient entre 10 et 12% de la population française. Ce chiffre est en hausse depuis 60 ans. Il indique de grandes migrations, mais il n'a rien à voir avec une invasion. Parmi ces immigrés, 41% sont d'origine africaine. En 2021, l'arrivée en France d'étrangers extra-européens a fait augmenter la population de 0,4%. Les demandes d'asile, elles, ont fait augmenter la population de l'ordre de 1% entre 2014 et 2020. Ces chiffres sont inférieurs à la moyenne de l'Union européenne et montrent, preuve arithmétique à l'appui, que le changement de peuple est bel et bien un fantasme. Mais d'autres tendances, bien réelles celles-là, continuent à inquiéter l'extrême droite. Oui, en France, les populations se mélangent et font des enfants. Et alors ? Citons aussi la remarque de cet autre démographe, François Héran. Ne mettra-t-on qu'un dixième des efforts de pédagogie déployés sur le Covid au service de l'immigration que bien des idées reçues tomberaient d'elles-mêmes ? Mais en dépit de toute raison, la formule du grand remplacement prospère. Depuis son château, Camus se sent en mission. Il abhorre le monde médiatique dans lequel ses idées et lui, dit-il, sont bannies. Pourtant, c'est un homme installé au cœur des médias qui va porter ses angoisses. Un homme que les Français écoutent, lisent et regardent depuis 20 ans sur France 2, Itélé, CNews, Paris 1ère, RTL, Europe 1, Le Figaro. Il s'appelle Éric Zemmour. Camus l'a vu vendre des centaines de milliers de livres remplis de son obsession d'islam, de sa détestation de la gauche et de contre-vérités historiques. Zemmour utilise l'expression « grand remplacement » quasiment depuis qu'elle existe. Il décrit une France en danger de mort qui se dirige vers la guerre civile. Et il est donc candidat à la présidentielle de 2022.
Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons, aux livres.
Zemmour, dans la course à l'Élysée, le grand remplacement devient un sujet sur lequel tous les candidats se croient obligés de se prononcer. C'était un terme circonscrit à l'extrême droite. Le voilà au cœur de la campagne avec la complicité de toute la droite. Du Rassemblement National avec son nouveau président Jordan Bardella jusqu'à Valérie Pécresse qui tombe dans le piège les deux pieds joints.
Maintenant, le grand remplacement, c'est un slogan. Voilà, maintenant, oui, nous parlons un ou une théorie, depuis parce que des années.
Du slogan, la théorie, je comprends plus rien.
Ah Jordan, je peux vous dire que nos compatriotes qui vivent en Seine-Saint-Denis comprennent parfaitement ce que signifie la submersion migratoire.
Vous voyez, ça, c'est aussi Marseille. Ça, c'est ça, le grand remplacement. Je leur dis qu'il est hâte qu'il y ait un président de la République qui donne ordre à son ministre de l'Intérieur de nettoyer tout cela, vous voyez.
Le grand remplacement, vous l'assumez, vous dites moi je prends cette notion-là, oui. Mais pourquoi nier les évidences ?
Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
Zemmour termine en quatrième position avec un score de 7,3%. Marine Le Pen, elle, réunit 41% des voix au second tour. Camus n'a jamais autant attiré l'attention, et peut-être... Enivré par son succès, il multiplie les provocations. Le génocide des Juifs, dit-il en 2019, était sans doute plus criminel, mais paraît tout de même un peu petit bras auprès du remplacisme global. Autre exemple, sur Twitter, sauvez des vies, faites comprendre à l'Afrique que la colonisation de l'Europe et le génocide par substitution des Européens, c'est fini. Annoncez aux Africains qu'on tirera sur eux s'ils continuent leur invasion. Camus a l'obsession des frontières, mais ses idées voyagent. Son livre circule dans les cercles de l'extrême droite américaine. À Charlottesville, en Virginie, le 11 août 2017, des suprémacistes blancs défilent avec des torches en scandant « You will not replace us ». « Vous ne nous remplacerez pas ». Le lendemain, un néo-nazi fonce en voiture dans une manifestation antiraciste. Un mort, 35 blessés. Chez Camus, le téléphone sonne de partout dans le monde. Que pense-t-il de ces manifestations de néo-nazis réunies par des slogans qu'il a inspirés ? Il répond qu'il condamne, mais que le slogan a toute sa sympathie. Le téléphone sonne encore le 27 octobre 2018, car à Pittsburgh, un homme assassine 11 juifs dans une synagogue. Pour ce cerveau dérangé et criminel, les juifs orchestrent le génocide des blancs. La parano, là encore. Le 3 août 2019, à El Paso, Texas, un autre terroriste tue 23 personnes d'origine hispanique. Il dit agir contre l'invasion et laisse un manifeste parlant du grand remplacement. Puis, 10 morts, presque tous noirs, le 14 mai 2022 à Buffalo, dans l'état de New York, le grand remplacement est une idée qui tue. Mais le jour où le téléphone de Camus sonne avec le plus d'insistance, c'est le 15 mars 2019, après un nouveau massacre, cette fois en Nouvelle-Zélande.
France Inter. La première ministre néo-zélandaise évoque ce matin des violences sans précédent dans cette île paisible du Pacifique Sud. Deux mosquées ont été attaquées ce vendredi matin, jour de prière, dans la ville de Christchurch. La police parle d'un nombre significatif de victimes.
Un homme s'est filmé en train de tirer sur les fidèles en direct sur Facebook. Des images insoutenables.
Tout à coup, les coups de feu ont commencé. Cela a commencé dans la salle principale. C'est là que j'ai compris la gravité du moment.
À 19 000 km de la France, un terroriste d'extrême droite assassine 51 personnes dans deux mosquées. Avant de passer à l'acte, il publie un manifeste. Son titre, Le Grand Remplacement. En Europe, depuis 2015, les violences d'extrême droite ont augmenté de 320%. Elle cible les immigrés et les militants de gauche. En France, en 2022, 1300 activistes d'extrême droite sont fichés S. En 2023, 13 hommes et 3 femmes sont jugés pour des projets d'attentats contre des musulmans. Il était prévu de prendre d'assaut une mosquée, de tuer 200 imams, ainsi que le rappeur Medine, et d'empoisonner de la nourriture halal avec de la mort au rat. Plusieurs dizaines d'armes à feu sont saisies, et tout ce qu'il faut pour fabriquer les explosifs. Camus rejette toute responsabilité. Pourtant, cela fait plus d'une décennie qu'il parle de colonisation, d'invasion, d'étouffement, d'occupation, d'armée de conquête, de cohorte d'étrangers, de guerre ethnique, de changement de race, de génocide et de reconquête. Qu'il parle également des musulmans comme des occupants, des voyous, des loups, qu'il compare leur vie en France à la guerre de Cent Ans, à la Shoah et à la Grande Peste. Un rapport à l'altérité sévèrement altéré, comme en témoignent les propos de l'un des fondateurs de la Nouvelle Droite, Dominique Venner, qui dit « On ressent d'autant mieux la chaleur du clan si l'on se trouve placé sous la menace d'un ennemi. »
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire du grand remplacement dont nous parlons avec notre invité Cécile Lecomte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Lille, dans les studios de France Bleu Nord, que nous remercions pour leur accueil. Vous êtes professeure de sciences politiques à Sciences Po Lille, donc, chercheuse au CNRS. Vos travaux portent sur les milieux d'extrême droite européens et sur la circulation de leurs idées. Alors, comment expliquer que le grand remplacement soit une formule qui ait autant de succès ?
Alors, vous l'avez dit, le grand remplacement, en fait, rassemble, compacte en une formule, un imaginaire très ancien. qu'on peut faire remonter en effet au 19e siècle avec peut-être différentes chronologies selon les pays, mais qui est quasiment universelle, on pourra y revenir. Et en fait, cette formule, elle cristallise en quelque sorte, elle rassemble en elle-même l'ensemble, cette peur ancienne de la submersion, de la disparition, de la mise en minorité. Et effectivement, ces atouts, bah, c'est une certaine plasticité. On pourra voir par après que, par exemple, les personnes qui se mobilisent sur contre ce qu'ils appellent l'idéologie du genre utilisent le terme de remplacement ou de grand remplacement. Si on remplacerait les femmes par des hommes. Voilà. Et puis en fait, comme c'est une formule, elle est aussi adaptée au format des réseaux sociaux. Vous l'avez rappelé, en fait, elle a circulé notamment sous forme de hashtag. Et donc effectivement, ça a favorisé effectivement sa viralité bien au-delà d'ailleurs de la nébuleuse d'extrême droite francophone.
Et pourquoi parlez-vous en termes de remplacement d'angoisse universelle ?
Universelle parce qu'on la retrouve dans de nombreux pays à différentes époques. Cette idée que le groupe d'appartenance, quel qu'il soit, est menacé dans sa survie par l'arrivée non désirée d'un autre, socialement construit, qui est une menace vitale. En fait, dans la droite la plus ultra aux États-Unis, on parle même de white genocide. Donc on parle de génocide blanc. Mais bien sûr, les passeurs du grand remplacement, je dirais, dans l'arène politique et médiatique grand public, ne reprennent pas ce terme de génocide blanc, mais prennent un terme plus passe-partout, si je puis dire, comme celui de grand remplacement, précisément.
Alors, la place de Camus dans cette histoire, est-ce que c'est pour lui le moyen d'apporter une caution, une légitimité intellectuelle à ce qui s'appelle tout simplement le racisme ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut voir qu'en effet, ce qui favorise la circulation de cette formule, et puis le fait, comme vous l'avez bien montré précédemment, sa circulation dans l'espace des notables, intellectuels, des professionnels de la politique, des partis établis, c'est le fait que Renaud Camus n'est pas n'importe qui. C'est un romancier qui, dans les années 70, avait été préfacé par Roland Barthes. C'est quelqu'un qui s'est illustré par son engagement, parfois en effet sous des formules controversées, mais dans la cause des droits des minorités sexuelles. C'est quelqu'un qui a obtenu 4 prix littéraires, dont un prix de l'Académie française, même s'il a échoué à plusieurs reprises à intégrer ladite Académie. Et puis, c'est un homme qui a les moyens, les ressources intellectuelles et culturelles pour mettre en forme sa théorie en des termes discibles, en des termes qui paraissent légitimes. Par exemple, lorsqu'il relie le grand remplacement et ce qu'il appelle la grande déculturation. Autrement dit, dans son esprit, le déclin de la culture classique française, le déclin le fait que la langue française ne serait plus pure, ce qui est un point de passage avec un intellectuel comme Finkielkraut, par exemple.
Ouais. Mais comment des gens qui sont des intellectuels, donc des gens qui réfléchissent, peuvent-ils penser eux-mêmes ce qu'ils disent dès lors que des chiffres, et on l'a dit dans le récit, des chiffres prouvent que leur interprétation est erronée ? On se demande s'ils y croient eux-mêmes ou si ce n'est pas une manœuvre.
Oui, alors là, c'est l'éternelle question. Hein. Il est difficile de départager ce qui relève vraiment de la stratégie cynique et des croyances. Je dirais qu'il y a un petit peu des deux. Certains collègues estiment qu'effectivement, Camus se radicalise, notamment avec ses propos antisémites que vous avez cités, tirés du journal de campagne de 94. Et ma collègue Gisèle Zapiro, par exemple, sociologue des intellectuels, a montré qu'en fait, de façon convaincante, cette outrance, c'est le moyen d'exister à un moment où Camus, finalement, échoue sur le plan politique, on l'a vu, hein, le parti qu'il a fondé, de toute façon, ne prend pas. Mm-hmm. Il échoue dans un premier temps, à, en tout cas au sein du Front National, vous l'avez rappelé, à imposer tout de suite cette idée, en tout cas lorsque Florian Philippot était encore membre du RN, où voilà, Marine Le Pen avait dit « bah oui, c'est complotiste, finalement je ne veux plus l'employer
oui. ».
Il échoue lui-même plusieurs fois à sa candidature au présidentiel, bref. Et puis il échoue dans ses différentes candidatures à l'Académie française. Et donc, cette outrance antisémite lui donne un côté subversif qui fait parler de lui.
D'accord.
Effectivement, en même temps, moi je défends avec une thèse parallèle qui n'est pas contradictoire avec un collègue Cédric Passard, à savoir qu'on peut trouver très vite dans ses écrits, et notamment ses journaux de voyage, une forme d'esthétique réactionnaire.
Qu'est-ce que vous appelez l'esthétique réactionnaire ?
Eh bien, par exemple, lorsque Camus rencontre son voyage en Italie, il oppose l'Italie classique, celle de la haute culture, celle des musées, celle des statues, celle des grands peintres, et puis celle de l'italien de la rue, qu'il trouve vulgaire, qu'il trouve finalement bavard, gesticulant. Il a des propos finalement très méprisants envers ce qu'il considère comme cette autre Italie.
Des Italiens qui aujourd'hui ne seraient pas dignes de leur histoire et de leur grandeur.
Bon. Exactement, tout à fait.
Bon. Ça le regarde.
Oui, tout à fait, oui, oui. Et donc, ça montre bien qu'il y a aussi une esthétique de la nostalgie, de l'âge d'or, décliniste, en fait, très vite, dans ses œuvres.
France Inter. Affaires sensibles.
Cécile Lecomte, je rappelle que vous êtes professeure de sciences politiques à Sciences Po Lille et que vos travaux portent essentiellement sur l'extrême droite. Il y a quelques années, le grand remplacement était reconnu comme une pensée raciste. Apparemment, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, puisque la formule a été reprise par de nombreuses personnalités à droite, et notamment ce qu'on appelle la droite parlementaire. On a entendu notamment Valérie Pécresse vraiment tomber dans le piège lors de l'un de ses discours, quand elle parle de grand remplacement. Elle valide le fait que finalement, c'est Éric Zemmour qui, au nom de la droite, a imposé le tempo de la campagne, le tempo des thèmes. Donc, cette notion de grand remplacement, est-ce que, pour la sociologue que vous êtes, vous n'êtes pas politologue, je sais, mais est-ce que c'est une épine dans le pied de la droite au sens large ?
Une épine dans le pied, oui, parce que ce thème du grand remplacement est mobilisé par, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, par ceux qui estiment incarner la vraie droite. Et on le voit très clairement dans le cas notamment de l'Allemagne et des États-Unis que j'ai un peu étudié et dans lequel on s'appelle en fait du côté des États-Unis l'alternative right ou bien si je pense au principal parti d'extrême droite en Allemagne qui est aujourd'hui crédité de 28% des intentions de vote, l'alternative pour l'Allemagne. Donc c'est l'alternative à quoi dans les deux cas ? C'est l'alternative à la limite à ce que Donald Trump aux États-Unis appelle les Renos, Republicans in name only, c'est-à-dire ces faux républicains modérés qui précisément ne croient pas à ces discours racistes, à ces discours de submersion, de contre-colonisation, etc. Et donc effectivement, c'est une épine dans le pied parce que à droite de la droite, il y a ceux qui estiment, qui accusent la droite conservatrice d'être naïve, de ne pas être consciente des périls et qui réclament pour eux-mêmes le label en quelque sorte de vraie droite. C'est ce que disait Jean-Marie Le Pen d'ailleurs dans les années 80. Hein, la vraie droite, si je ne m'abuse, c'est ce qu'il disait, c'est moi.
Et alors cette vraie droite, comme elle s'appelle, comme elle s'auto-proclame, parle donc de remigration comme un remède au grand remplacement. Alors c'est quand même une notion explosive et moralement difficile à accepter, la remigration, c'est-à-dire qu'on rejette nos immigrés chez eux ou ailleurs, dans un mouvement qui rappelle des choses pas terribles quand même. Remigration.
Tout à fait. Bah, c'est un autre mot pour dire déportation.
Voilà, je voulais vous faire dire. D'accord.
Oui, et vous avez bien rappelé en fait qu'en tout cas dans le cas français, ce sont les identitaires les premiers qui en fait font circuler ce terme de remigration lors des assises de la remigration organisées en 2014, assises auxquelles Renaud Camus est d'ailleurs présent. Mmh. Et alors, ça fait partie des 26 mesures qui sont prônées par les identitaires à l'époque pour lutter contre cette supposée submersion, ce supposé remplacement en fait. Mais ça donne presque le sentiment qu'à la limite, la remigration peut être volontaire. Tandis qu'en fait, je dirais que ça cache deux choses. Bien sûr, l'idée de déportation. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Allemagne, l'AFD a vite repris ce terme d'origine française, de remigration, parce que si on emploie dans le contexte allemand le terme de déportation...
Évidemment, voilà, c'est lourd de sens.
C'est très lourd de sens. Et par ailleurs, il y a aussi l'idée derrière qu'il y a les vrais nationaux et les autres. Comme disait, enfin, ça fait écho à une formule du Front National, lorsqu'il s'appelait encore ainsi Front National, les vrais Français et les Français de papier. Autrement dit, parmi nous, il y a ceux qui ethniquement ne sont pas des Français, qui ont le passeport, mais qui finalement n'appartiennent pas au peuple français défini de façon ethnique voire raciale. Et c'est l'idée, en fait, que ben ces gens-là, c'est non seulement les immigrés qui n'ont pas la nationalité, mais c'est également ces supposés faux Français qu'il s'agit en fait de déporter. Alors on ne sait où finalement, hein, dans leur supposé pays d'origine. Voilà tout ce qui se cache encore derrière cette notion de remigration.
Et pour cette sphère-là, il y a un épouvantail, c'est le métissage.
Tout à fait. C'est le métissage. On le voit aux États-Unis. Alors pourquoi le métissage ? Bah aussi parce que le métissage vient justement, en quelque sorte, contredire le scénario.
Les présupposés de ces gens-là, oui.
Tout à fait. Et en fait, par exemple, lorsque l'extrême droite emploie d'autres formules, telles que le mondialisme, par exemple, on a l'impression en fait que c'est un discours anti-globalisation, presque de gauche, en quelque sorte. Vous avez bien montré dans l'émission précédemment comment toutes ces extrêmes droites ultra se sont réappropriées des thèmes, des figures tutélaires, Jean Moulin, des thématiques de la gauche.
Alors, toute dernière chose, il nous reste 45 secondes, la question est un peu ouverte, mais on voit bien qu'il y a un regain des idées d'extrême droite un peu partout dans l'Occident. À cause de quoi, à votre avis? C'est quoi la raison profonde? Est-ce que c'est la crise économique, par exemple, où on vit des moments plus difficiles et qu'il faut trouver des boucs émissaires?
Oui, alors ça, c'est une explication qui est souvent avancée, mais en fait, les travaux montrent qu'il n'y a aucune relation directe entre la dégradation de la situation économique, comme c'est le cas actuellement, et la montée de l'extrême droite. Mmh. Autrement dit, il faut qu'il y ait un travail politique opéré par des acteurs politiques, des entrepreneurs d'idéologie, qui établissent un lien, enfin un cadrage, on dirait, établissent un lien entre la dégradation de la situation économique, la présence d'une main-d'œuvre immigrée qui ferait concurrence à la main-d'œuvre dite autochtone. Donc en fait, ça demande tout un travail précisément sur la langue et sur la définition de l'agenda public pour que cette dégradation de la situation personnelle ou collective soit mise en lien avec le phénomène migratoire et celui du multiculturalisme. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une mixophobie profonde derrière, en fait, tous ces discours.
Bien, ce sera le mot de la fin, Cécile Lecomte. Je vous remercie pour tous vos éclairages. Au revoir.
Je vous en prie. Au revoir.
Affaires sensibles, aujourd'hui le grand remplacement, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alex Olaréouajou, Ottawa.